France Culture.
Et le journal vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le gouvernement ne veut pas supprimer la cinquième semaine de congés payés. C'était juste une idée, assure la ministre du Travail qui invite à présent les partenaires sociaux à en débattre. L'espoir paye toujours, l'émotion de Serge Atlaoui ce matin à sa sortie de la prison de Meaux. À 61 ans, le voilà libre après 20 ans derrière les barreaux. Un 18e paquet de sanctions contre la Russie, l'Europe veut assécher le budget de guerre du Kremlin. Et puis les experts de l'ONU l'appellent le tueur silencieux. La sécheresse assomme tout le sud de l'Europe. Reportage en Turquie dans une dizaine de minutes.
Fausse piste ou vrai cafouillage?
En tout cas, une clarification était nécessaire. Il n'est pas, pour leur question, de monétiser les congés payés. L'idée a été évoquée mardi dans la foulée de la présentation du budget 2026, non pas par François Bayrou, mais par la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. Rétropédalage ce matin sur RTL, elle a tenté de clarifier les choses. Ça n'est effectivement qu'une idée, dit la ministre, et c'est aux partenaires sociaux d'en discuter. Rosalie Lafarge.
Elle est peut-être passée inaperçue dans un premier temps, mais depuis, cette piste fait parler beaucoup. Et la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, se retrouve obligée d'expliquer, de préciser ce qu'elle a elle-même avancé mardi et que son collègue ministre de l'Économie, Éric Lombard, semblait découvrir encore hier.
La monétisation d'une cinquième, ça je n'ai pas vu ça dans nos propositions. Mais cela dit, on prend les idées, mais celle-là je ne l'ai pas encore... Je ne l'ai pas vue et elle n'est pas prévue.
Pas prévue dans le budget 2026, tentera de rattraper le ministère derrière. Mais elle a bien été annoncée, cette mesure, dans la foulée de la prise de parole du Premier ministre en début de semaine. Sauf qu'annoncer ne veut pas dire imposer, rappelle le gouvernement. La ministre Panosyan-Bouvet tente de plateau un message sur les réseaux sociaux, de faire savoir que rien n'est encore tranché. Ce matin sur RTL, donc...
C'est un texte qui est... à l'appréciation des partenaires sociaux, puisqu'ils doivent commencer les négociations à partir du 1er août.
Hier sur LCI.
C'est une proposition qu'on fait aux partenaires sociaux, hein, et c'est vraiment aux partenaires sociaux de retenir ou non d'ailleurs la proposition.
Une idée, juste une idée, présentée comme un droit nouveau calqué sur le principe du rachat de RTT et qui serait laissé à la main des salariés. Aucune obligation, assure encore la ministre. Aux partenaires sociaux de s'en débrouiller désormais, si la Confédération des petites et moyennes entreprises n'y est pas opposés. La CFDT, elle, range cette monétisation de la cinquième semaine de congés payés dans le musée des horreurs, des orientations présentées.
Et parmi les mesures les plus contestées, la suppression de 2 jours fériés et les 5 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de santé. 8 Français sur 10 ne font pas confiance à François Bayrou pour redresser les finances du pays, d'après un sondage Odoxa pour le Figaro. Jamais je n'aurais cru que ça arriverait. L'émotion de Serge Atlaoui ce matin à sa sortie de la prison de Meaux. Cet ancien condamné à mort en Indonésie a été libéré après 20 ans de détention pour trafic de drogue. Bonjour Marion Aquilina.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la prison de Meaux. Vous avez vu Serge Atlaoui ce matin. Il est sorti un peu avant 10h avec un grand sourire aux lèvres.
Oui, Serge Atlaoui s'est empressé d'allumer une cigarette en passant le seuil de la prison de Meaux.
Enfin, c'est tout, rien d'autre. Enfin la liberté. Jamais j'aurais cru que ça serait arrivé, quoi. En insistant, et puis avec le soutien, ça s'est fait, quoi. Donc, comme quoi que l'espoir paye toujours.
L'ex-condamné à mort, âgé de 61 ans, avait hâte de rejoindre sa famille près de Metz. Le début d'une nouvelle vie en liberté conditionnelle.
Si j'ai pu supporter 20 ans de prison, je peux supporter la liberté. C'est une étape de plus à franchir, c'est tout. Avec tout ce qu'on a déjà passé, là c'est la dernière.
Et à ses côtés, son avocat, maître Richard Sedillo, avait les larmes aux yeux en repensant au combat mené depuis l'Indonésie.
Je suis très 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 ému de voir Serge, que je n'avais jamais vu en liberté, sous le ciel bleu, le soleil. Imaginez qu'il va retrouver sa femme, ses enfants. Et puis imaginez qu'il y a quelques années, il était au bord de la mort, qu'on nous annonçait déjà qu'il allait être exécuté. Tout ça est derrière nous.
Serge Atlaoui peut désormais se déplacer, y compris à l'étranger, à condition de prévenir la justice. Sans cette libération conditionnelle, il devait sortir en novembre 2035.
Merci Marion Aquilina, avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Et de son côté, Georges Ibrahim Abdallah est attendu au Liban le 25 juillet prochain. La justice française a ordonné sa libération hier après 40 ans de prison pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Appeler les personnes trans l'enfance par le prénom de leur choix, impliquer le médecin généraliste dans le parcours de transition ou encore répondre à toutes les demandes de chirurgie. La Haute Autorité de Santé dévoilait ce matin ses recommandations concernant la transition de genre des adultes. Bonjour Julie Paco.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui encore, les personnes trans sont confrontées à la stigmatisation et à l'errance médicale. C'est pour ça que la HAS avait été saisie en 2021 par le ministre de la Santé. Et les recommandations du jour sont adressées aux professionnels et aux travailleurs sociaux.
Effectivement, c'est un guide de bonne pratique pour que d'une part, les personnes souhaitant s'engager dans une démarche de transition puissent prendre des décisions libres et éclairées et d'autre part, assurer une prise en charge globale, de qualité et homogène sur l'ensemble du territoire. La HAS propose donc un cadre d'intervention allant de la prescription d'hormones à la chirurgie en passant par la conservation des gamètes destiné à un large panel de professionnels de santé, endocrinologues, psychiatres, gynécologues, même si la HAS préconise que le médecin généraliste qui accueille la demande coordonne le parcours de soins, Claire Compagnon est membre du collège de la HAS.
Il ne s'agit pas d'une médecine de confort, mais bien d'une médecine qui va permettre aux personnes de s'inscrire dans un parcours de vie, dans une vie sociale, dans une vie professionnelle. Et donc, en ce sens, c'est une question de santé majeure.
Une question de santé majeure qui concerne au moins 22 000 personnes en France et qui sont aujourd'hui prises en charge par l'assurance maladie au titre d'une affection longue durée hors liste. Et si ces recommandations concernant les adultes font consensus, leur élaboration ne s'est pas faite dans la sérénité, déplore le président de la HAS, Lionel Collet.
Des pressions extérieures, une fuite de documents, une procédure judiciaire, des atteintes à la vie privée. On a même dû déposer plainte contre X à un moment donné. Disons que c'est un sujet infiniment sociétal. Il y a des réactions qui sont des réactions que je qualifierais souvent malheureusement d'extrêmes, alors qu'il faut poser la question. La question se pose aussi chez le mineur. Nous ne le traitons pas dans cette recommandation-là, mais ça fait partie du travail que nous allons débuter dès 2026.
Car les questions de transition de genre chez les mineurs, qui concentrent les controverses les plus vives, ne font pas consensus au sein du groupe de travail de la HAS, qui a donc préféré se donner du temps avant d'émettre ses recommandations.
Merci Julie Paco. Des médecins de l'hôpital public sommés de rembourser une partie de leur salaire. L'histoire se passe en Seine-et-Marne, dans le deuxième hôpital d'Île-de-France. La direction a demandé à plusieurs dizaines de médecins étrangers de rembourser toutes les primes touchées ces deux dernières années. Ça représente jusqu'à 100 000 euros pour certains, les deux tiers de leur salaire. Thomas Séchier, c'est un coup de massue pour ces médecins contractuels qui sont déjà en situation précaire.
4 000 euros nets par mois, dont 2 800 euros de primes. C'est pour ce salaire que cette médecin marocaine de 29 ans quitte son pays pour s'installer en Seine-et-Marne il y a 2 ans, jusqu'à 7 visites en début d'année.
Une visite inattendue en fait du directeur des ressources humaines qui vient me dire en fait, je vous transmets une lettre recommandée. Je suis navrée en fait de vous dire que vous êtes amené à rembourser telle et telle somme.
Pour elle, ce sont 60 000 euros de primes pourtant écrites noir sur blanc sur ses contrats qu'elle est sommée de rembourser et un salaire qui retombe à 2 000 euros nets mensuels pour 60 à 70 heures de travail par semaine.
Je sors plus, je voyage plus, je fais que vivre à l'hôpital en fait dernièrement. C'est, si jamais il y a quelqu'un qui cède sa garde, je suis prenante. Je suis obligée à bosser en fait comme une malade. C'est être mal en fait dans sa peau en travaillant, à se sentir humiliée. Jamais de la vie j'aurais cru à ça.
Dans un communiqué, la direction de l'hôpital évoque des primes non réglementaires mises en place par la précédente direction, des primes pourtant courantes pour attirer les praticiens dans les déserts médicaux. L'hôpital espère récupérer 2 700 000 euros pour l'heure aucun médecin n'a remboursé. Des recours ont été déposés devant la justice administrative.
Un numéro vert pour les victimes de Joël Le Skouarnec. Le ministère de la Santé annonce sa mise en place avec une aide psychologique pour répondre aux quelques 300 patients, quasiment tous des mineurs, agressés ou violés par l'ancien chirurgien, récemment condamné à 20 ans de réclusion. Une nouvelle information judiciaire est par ailleurs ouverte contre X pour non-empêchement de crimes et de délits.
France Culture, 12h39, c'était une erreur.
Benjamin Netanyahou reconnaît qu'Israël n'aurait pas dû frapper l'église de la Sainte Famille hier dans le centre de la ville de Gaza. C'est la seule église catholique de l'enclave qui abritait plusieurs centaines de réfugiés. Au téléphone avec Donald Trump, le premier ministre israélien a dit regretter cette frappe, pourtant annoncée quelques heures auparavant. Frappe qui a fait 3 morts et des dizaines de blessés. Israël annonce par ailleurs l'envoi d'aide humanitaire aux Druzes de Syrie après plusieurs jours d'affrontements dans la province de Souéda. La L'armée syrienne s'est retirée sous la pression et les bombardements d'Israël. Au moins 600 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine. Tous ensemble, intensifions la pression sur la Russie. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin après l'adoption par l'Union européenne d'un 18e paquet de sanctions contre Moscou. L'objectif est toujours le même, affaiblir le Kremlin en limitant au maximum son budget militaire et son effort de guerre. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Aujourd'hui, on monte encore d'un cran avec des sanctions dans trois domaines, la finance, le commerce et surtout l'énergie.
Effectivement, l'Union européenne continue de s'attaquer aux exportations de pétrole russe. Cette fois, elle instaure un plafond de prix, 45 euros maximum le baril, sous peine de sanctions contre les pétroliers qui continuent à en vendre ailleurs dans le monde. L'Europe interdit par ailleurs l'importation sur son sol de produits raffinés à partir de brut russe. Enfin, 105 nouveaux tankers se voient interdire l'accès aux ports européens. Objectif, tarir les sources de financement de l'effort de guerre russe en Ukraine. La France, par la voix de son ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, salue l'adoption de ces mesures.
La seule façon de remettre les parties autour de la table des négociations et de créer les conditions d'une paix juste et durable, c'est d'accroître fondamentalement la pression sur la Russie, sur le plan militaire en continuant les livraisons d'armes à l'Ukraine qui se défend courageusement, et sur le plan économique avec les sanctions. Et ce 18e paquet de sanctions est une avancée majeure. Il y a eu un effort diplomatique considérable qui a été fait pour son adoption, et nous continuerons de soutenir les Ukrainiens face à cette guerre d'agression, parce que c'est la sécurité de tous les Européens qui est en jeu.
Autre pilier de ce 18e paquet de sanctions, le secteur financier, avec 22 nouvelles banques russes retirées du système international de transactions SWIFT, ou encore un volet commercial avec 26 organismes de pays tiers placés sous sanctions car accusés de contourner les précédents paquets, principalement en Chine et en Turquie.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. La Russie a par ailleurs visé l'Ukraine cette nuit, 35 drones lancés sur la région de Zaporijia. Un homme est mort dans l'effondrement d'un immeuble. Un chantage inacceptable, voilà ce que pense Lula, le président du Brésil, des droits de douane de Donald Trump. Pour lui, ça n'est pas 30% comme en Europe, mais 50% de taxes qui seraient appliquées à partir du 1er août. Lula s'est dit prêt à négocier, mais le président américain s'intéresse moins au commerce qu'à la justice du Brésil. Il exige qu'elle abandonne les charges contre son allié et ancien président Jair Bolsonaro, lequel est actuellement jugé pour tentative de coup d'État. Deux Canadair et un bombardier réquisitionné ce matin dans le sud de la France pour lutter contre l'incendie qui ravage la région de Martigues, près de Marseille, depuis hier soir. 240 hectares de végétation sont déjà partis en fumée, des maisons ont été touchées et une centaine de personnes évacuées. Les feux de forêt sont de plus en plus fréquents en France, mais aussi en Italie, en Grèce, en Turquie depuis le début de l'été. Certains pays méditerranéens sont même menacés par la désertification, l'impossibilité de faire pousser quoi que ce soit. Exemple, ici en Turquie, 88% du territoire est concerné. Reportage Marie-Pierre Véraud.
La dernière carte de la sécheresse en Turquie, celle de juin 2025, est éloquente. Le pays apparaît entièrement coloré en marron, avec seuls deux minuscules points verts. Le marron désigne les régions qui ont reçu moins de la moitié des précipitations nécessaires. C'est dire que tout le pays est en état d'alerte sécheresse. Fatih Şık le sait bien, agriculteur à Konya, en Anatolie centrale. Il cultive des betteraves à sucre, du maïs, du blé, et il voit sa terre s'assécher.
Il y a trois ans, il pleuvait beaucoup ici. Il neigeait à partir de novembre et la neige restait jusqu'en avril. L'eau était en abondance, mais maintenant, Dieu ne nous envoie plus d'eau. Au printemps, il pleuvait chaque semaine. Maintenant, sur toute l'année, il ne pleut que trois ou quatre fois, et on doit utiliser les pompes à eau. En 1980, on pompe l'eau à 18 mètres. Aujourd'hui, c'est à 90 mètres.
La région de Konya, grenier à blé de la Turquie, est particulièrement menacée. Levent Kurnaz, professeur à l'université Boazici et directeur du Centre pour le changement climatique, tente d'alerter le gouvernement en vain.
On ne cesse de leur dire, vous devez imposer des règles à la production agricole, interdire certaines cultures, par exemple les betteraves à sucre. Dans les régions où l'on manque d'eau, vous ne devriez pas avoir le droit d'en faire pousser. Et le gouvernement répond, non, nous ne vivons pas dans un pays communiste. On ne peut interdire quoi que ce soit. Mais le changement climatique a besoin de gouvernements fort, tellement fort qu'ils ne céderont pas.
Alors, faute d'alternative, les agriculteurs de Konya continuent à planter betteraves et maïs particulièrement gourmands en eau, même s'ils savent qu'ils n'en auront bientôt plus.
Et en France aussi, la sécheresse menace, notamment dans le Cher et l'Indre. Deux bassins versants passent en alerte renforcée aujourd'hui, avec des mesures de restriction d'usage de l'eau. Au contraire, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et la Manche sont placés en vigilance orange, pluie, inondation. Un fort épisode orageux est prévu entre ce soir et demain sur la Bretagne et la Normandie. D'ici là, le soleil brille sur le sud-est, il est présent mais voilé sur le reste du territoire. Les températures sont encore chaudes, il fait 24 degrés dans le nord, 28 à Paris, à Lyon jusqu'à 31, les maximales du côté de Marseille.